à Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30. Bonsoir à tous, voici les titres. Au Gabon, modification de la constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Au Cameroun, la justice rejette la demande de mise en liberté des leaders sécessionnistes anglophones. En Tunisie, une récente loi pénalisant le racisme est une première victoire pour les minorités. Divorce difficile entre Londres et Bruxelles. 4 ministres du gouvernement britannique ont démissionné. Un tribunal fédéral va statuer sur un litige entre CNN et la Maison Blanche qui a refusé l'accréditation d'un journaliste après un échange houleux avec le président Donald Trump. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique. En République démocratique du Congo, fusion de 2 sociétés focalisées sur le lithium, cobalt et tantal. Et aussi notre page sportive, mais tout d'abord le journal. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a modifié la constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis 3 semaines à Riyad. L'opposition et la société civile parlent d'un coup de force. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La Cour constitutionnelle a autorisé le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera uniquement sur l'ordre du jour prévu par le Premier ministre. Marie-Madeleine Namburansuo, présidente de la Cour, a annoncé la modification de la Constitution pour faire face à l'indisponibilité temporaire du président Bongo. La Constitution ne prévoyait pas cette situation d'empêchement temporaire du chef de l'État. Servie par le Premier ministre Emmanuel Issozi Ngondé, la Cour a alors décidé d'ajouter une disposition à la Constitution. Cette dernière dit qu'en cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées, selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. L'opposition et la société civile ont dénoncé un coup d'État constitutionnel opéré par Mme Boransuo qui dirige l'institution depuis 1991. Le président Ali Bongo est hospitalisé depuis le 24 octobre en Arabie Saoudite. Selon la présidence, il se trouve dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques suite à un malaise. Aucun conseil des ministres ne s'est tenu depuis son absence.
En République démocratique du Congo, 4 casques bleus malawites ont été tués au moment où l'ONU et des militaires congolais mènent une offensive conjointe dans l'Est contre des rebelles. Plus tôt, le numéro 2 de la MONUSCO, le général Bernard Comin, avait annoncé que plusieurs militaires congolais et des casques bleus avaient été blessés pendant cette offensive. Les ADF sont historiquement un groupe de rebelles musulmans de l'Ouganda voisin qui s'est replié à la fin des années 90 dans l'Est du pays pour poursuivre son combat contre le président Museveni. Selon Human Rights Watch, les forces de sécurité angolaises et des jeunes de l'ethnie Tshokwe ont tué au moins 6 Congolais durant l'opération d'expulsion dans la province de Luanda Norte, frontalière de la République démocratique du Congo. Le nombre de morts est probablement plus élevé selon l'ONG qui affirme que près de 400 000 Congolais ont été expulsés de l'Angola vers la République démocratique du Congo. Et le commissaire de police angolais Antonio Bernardo, porte-parole de l'opération, a démenti que des réfugiés se trouvent parmi les personnes expulsées. La justice camerounaise rejette la demande de mise en liberté immédiate de 10 leaders sécessionnistes anglophones. Décision rendue ce jeudi lors de l'audience à huis clos par un juge de la cour d'appel du centre à Yaoundé. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
L'audience à huis clos de ce matin a duré moins de 5 minutes. Au terme du verdict, Ayouk Sissoukou-Tabi, leader séparatiste anglophone, et 9 autres personnes sont remontées à bord d'un car de la gendarmerie nationale sous haute sécurité. Direction, les cellules du secrétariat d'État à la Défense où ils vont rester encore en prison.
Cette procès est vraiment politique.
Maître Ndong Christopher Nfi, l'un des avocats des leaders sécessionnistes anglophones.
Les leaders là étaient les réfugiés au Nigeria. Ce statut de réfugié doit être respecté par le Cameroun. C'est une infraction qu'on a attaquée.
Une ligne de défense rejetée par le juge de la cour d'appel. Motif, la requête de demande de mise en liberté immédiate des leaders sécessionnistes anglophones n'avait pas été enrôlée avec une déclaration sous serment au tribunal de grande instance de Yaoundé.
Il faut rêver pour croire qu'il y a de la justice au Cameroun.
Maître John Fenso dirige le conseil des avocats des leaders sécessionnistes.
Nous n'avons aucun espoir par rapport au système judiciaire du Cameroun. Nous faisons juste notre travail.
Les avocats des leaders sécessionnistes anglophones ont annoncé qu'ils vont attaquer le verdict rendu ce jour devant la Cour suprême du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Niger, la Cour de cassation à Niamey rendra sa décision le 19 décembre dans le procès des 8 militaires et d'un civil condamné en janvier de 5 à 15 ans de prison pour une tentative de putsch en 2015 au Niger, a annoncé un de leurs avocats. À Madagascar, il faudra peut-être un second tour pour départager les frères ennemis, André Rajoelina et Marc Ravalomanana. Dans la course à la présidentielle, la commission électorale critiquée par tous les candidats a publié ce jeudi les résultats partiels après de 84% des bulletins. Le second tour est prévu le 19 décembre. En Tunisie, descendants d'esclaves et personnes de couleur sont encore victimes de discrimination malgré l'adoption récente d'une loi pénalisant le racisme dans le pays. Ils espèrent réclamer justice en s'appuyant de ce texte adopté le 9 octobre dernier, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Le président français Emmanuel Macron est au Maroc où il a inauguré avec le roi Mohamed VI la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, présentée comme la plus rapide d'Afrique. D'une longueur totale de 350 km, les deux régions les plus dynamiques du royaume seront reliées en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique en difficulté avec sa majorité, un député conservateur a réclamé un vote de défiance contre Theresa May après la démission de quatre de ses ministres mécontents du projet de divorce conclu avec l'Union européenne. Le point avec Abdourahmane Dia.
Theresa May a été accueillie ce jeudi au Parlement par des appels à la démission alors qu'elle était venue présenter un projet d'accord avec l'Union européenne sur le Brexit conclu la veille. Dans un courrier expliquant les raisons de sa requête pour un vote de défiance, Jacob Rees-Mogg, à la tête d'un groupe parlementaire eurosceptique, a écrit que le projet d'accord de divorce présenté au Parlement s'avère pire qu'attendu et échoue à remplir les promesses faites à la nation par la Première ministre. Il critique aussi l'instauration même de la période de transition, le montant de la facture évalué à plus de 40 milliards de dollars et la nécessité pour Londres de devoir continuer à se plier aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne pendant cette période de transition. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, lui, déplore que le gouvernement se délite sous nos yeux. Theresa May, elle, se défend, indiquant que ce projet n'est pas un accord définitif avec Bruxelles. Mais un responsable européen a aussitôt indiqué que ce projet de divorce ne serait pas renégocié.
Ici aux États-Unis, la chaîne CNN a demandé à un juge d'un tribunal fédéral de Washington d'ordonner à la Maison-Blanche de rendre l'accréditation d'un de ses journalistes privés d'accès à la Maison-Blanche après un échange houleux avec le président Donald Trump. Le juge Timothy G. Kelly, nommé par le président, a annoncé qu'il rendrait sa décision ce jeudi à 15h, heure locale. Jacques Aristide.
Le journaliste au cœur du scandale, Jim Acosta, n'a fait aucun commentaire à sa sortie du tribunal hier, préférant attendre le verdict du juge Timothy Kelly sur la demande de CNN. La Maison-Blanche a annoncé le retrait de l'accréditation de Jim Acosta la semaine dernière, après une prise de bec entre le journaliste et le président au sujet de la caravane de migrants marchant vers la frontière américano-mexicaine.
Ils sont à des centaines de kilomètres d'ici. Ils sont à des centaines et des centaines de kilomètres d'ici. Ce n'est pas une évasion.
Laissez-moi diriger le pays et vous, occupez-vous plutôt de CNN. Et si vous travailliez mieux, vous auriez de meilleures audiences.
Une autre question, si je puis me permettre, sur l'enquête à propos de la Russie.
Ça suffit.
Monsieur le Président.
Ça suffit.
Une autre question, si je puis me permettre, sur l'enquête à propos de la Russie. Craignez-vous des actes de mise en accusation?
L'enquête sur la Russie ne m'inquiète nullement parce que c'est un canular. Ça suffit. Posez le micro.
Les avocats du gouvernement affirment que Jim Acosta était coupable de conduite inappropriée et méritait de perdre son badge pour cause de refus de se conformer aux normes générales d'une conférence de presse. Dans son combat juridique, la chaîne d'info a reçu au passage le soutien de plusieurs médias, dont sa rivale Fox News, la chaîne préférée du président.
Les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions financières ciblées contre 17 responsables saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, dont des proches du prince héritier Mohamed Ben Salman. Parmi les personnes visées par ces mesures figurent des membres de la garde rapprochée du prince, ainsi que le consul général d'Arabie Saoudite à Istanbul, a déclaré le Trésor américain dans un communiqué. Au Proche-Orient, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a presque réussi à surmonter la crise financière provoquée par le retrait des États-Unis, son premier contributeur, a déclaré jeudi son chef, Pierre Karumboul. L'agence avait prévu un budget d'1,5 milliard de dollars pour 2018, mais s'est retrouvée face à un trou de 446 millions de dollars après la décision du président Donald Trump, un déficit qu'il espère réduire dans les prochaines semaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En RD Congo, International Cobalt Corp envisage une fusion avec Tantalex Resources, une société focalisée sur l'exploration et le développement de projets de lithium, cobalt et tantal en Afrique. La compagnie qui naîtra de la fusion, dénommée Amalco, sera détenue à parts égales par les deux parties et cotée à la Bourse des valeurs canadienne. Tantalex doit livrer sur ses opérations congolaises des ressources minérales d'au moins 15 millions de tonnes, titrant 0,65% d'oxyde de lithium. International Cobalt Corp doit contribuer pour au moins 8 millions de dollars à la trésorerie de la nouvelle société. Au Nigeria, la banque centrale exige un capital minimum de 5 milliards de naira pour une licence de banque de paiement par les opérateurs de télécommunications. Ce nouveau segment d'activité sera en concurrence directe avec les activités de microfinance où n'est exigé qu'un capital minimum de 2 milliards de naira. Les opérateurs de télécommunications auront donc le droit d'effectuer des paiements et recevoir des dépôts, mais ne pourront pas effectuer des prêts, ce qui restreindra leurs possibilités. Pour finir, un nouveau véhicule d'investissement va se charger de recouvrer les créances douteuses des banques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 100 millions de dollars ont été débloqués par la Société financière internationale et Omni Bridgeway, le spécialiste néerlandais du recouvrement des prêts non productifs, de la gestion des dettes et du règlement des litiges juridiques. Cela permettra aux banques de réduire leurs prêts non productifs, réhabiliter et réintégrer les débiteurs défaillants sur les marchés du crédit formel.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
La Guinée renverse la Mauritanie sur le fil.
Et oui, en déplacement en Mauritanie, la Guinée s'est imposée 2-1 à l'occasion du premier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Un scénario frustrant pour les Mourabitoun qui ont pourtant mené au tableau d'affichage pendant 70 minutes avant de céder. Renversant donc, le Sili des moins de 23 ans prend une option avant le match retour, mardi à domicile.
Deux forfaits en plus pour le Mali face au Gabon.
Déjà privé du latéral gauche Massadio Aïdara et du milieu de terrain Yves Bissouma, les Aigles viennent d'enregistrer deux nouveaux forfaits avec le milieu de terrain Amadou Aïdara, des Red Bull Salzbourg et l'attaquant et capitaine Abdoulaye Diaby du Sporting Portugal. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur malien confiant quant à la victoire à Libreville, Mohamed Magasouba.
C'est pour aller prendre aussi la victoire dans la gueule du canon, comme on l'a dit. Sur des braises ardentes, nous sommes prêts pour ça. Nous sommes des combattants, nous sommes des vaillants guerriers. Nous représentons une nation. Nous allons tout faire pour mouiller le maillot. On a préparé un bon cocktail explosif. Je crois que ça va bien exploser. J'ai une jeune équipe. Et je vous dis sincèrement, je suis très satisfait de la production de mon équipe. Nous sommes des entraîneurs de haut niveau. Je le dis, c'est pas pour rien. Et nous faisons des calculs. Nous ne pesons jamais un pion sans faire un calcul. J'ai dit.
Premier du groupe C avec 8 points, une victoire ce samedi dans la capitale gabonaise face aux Panthères qualifierait les Aigles maliens pour la CAN Cameroun 2019.
L'agence antidopage du Nigeria sanctionnée par l'AMA.
L'agence mondiale antidopage a décidé de suspendre l'agence nationale antidopage du Nigeria en raison d'insuffisances dans son programme de contrôle. Principale conséquence, l'agence nigériane ne va plus être autonome pour conduire ses propres programmes antidopage le temps de la suspension. La structure nigériane a 21 jours pour éventuellement contester la décision devant le tribunal arbitral du sport.
Accord de principe pour l'arbitrage vidéo en première ligue.
Oui, les clubs de l'élite anglaise ont donné leur accord de principe pour l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage dès la saison prochaine. L'annonce a été faite par la Premier League. L'instance doit désormais formellement demander l'autorisation à la FIFA et à l'instance internationale garante des lois du jeu d'introduire la VAR actuellement testée en Angleterre, en FA Cup et en Coupe de la Ligue.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, division concernant les concertations régionales en vue de la réorganisation territoriale dont les travaux doivent prendre fin ce jeudi. Si les assises se tiennent dans la majeure partie du territoire national, la région de Gao fait exception. Dans la cité des Askia, les groupes armés de la plateforme et la société civile empêchent la tenue effective de la rencontre. À Bamako, c'est l'opposition à travers le Front pour la sauvegarde de la démocratie qui dénonce l'impréparation et le manque de concertation autour de ces assises. À Bamako, Kassim Traoré, notre correspondant, nous en dit plus.
À la veille de ces concertations régionales, les chefs de file de l'opposition avaient demandé son boycott. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Le Front de sauvegarde de la démocratie lance un appel au boycott, c'est-à-dire au boycott des concertations régionales par toutes les forces vives du pays. Le Front de sauvegarde de la démocratie tient le gouvernement seul entièrement responsable de toutes les conséquences de cette initiative dangereuse et attentatoire à l'unité et à la cohésion nationale. Le Front de sauvegarde de la démocratie n'est pas opposé à une réorganisation territoriale pour un pays aussi vaste et sous-assimétré comme le Mali. Mais un tel processus ne peut être conduit dans l'impréparation, l'opacité et la ruse favorisant telle ou telle tribu ou telle communauté.
Pour le Premier ministre, principal organisateur de ces concertations sur la réorganisation territoriale, le boycott n'est pas la solution. Soumaïla Boubey Maïga, Premier ministre du Mali.
Dans les débats démocratiques, nous avons toujours considéré la politique de la chaise vide comme un manque de confiance en soi-même. Nous sommes dans un débat démocratique. Donc tous ceux qui sont assez sûrs de leurs propositions, ou même quand ils n'en sont pas sûrs, mais qui ont seulement des propositions à faire, il n'y a aucune raison d'observer une politique de la chaise vide. Donc pour notre part, nous n'allons pas nous laisser distraire par cette tentative-là et nous allons continuer cet exercice. Et le moment venu, nous prendrons les décisions qui s'imposent.
Maître Muntagatal trouve que cette rencontre n'a pas été bien organisée par le gouvernement, car les ingrédients ne sont pas réunis.
Il s'agit du redécoupage territorial, de la révision constitutionnelle et de tous les autres problèmes. Mais nous pensons à notre âme et conscience que le délai imparti est très insuffisant. Nous ne pensons pas que ces réformes majeures pour notre pays puissent se faire en si peu de temps. C'est pour ça que nous avons suggéré que l'on mette les choses à l'endroit en commençant par le dialogue politique inclusif.
L'ancien ministre de l'administration territoriale trouve que les concertations nationales ne sont pas fédératrices. Ousmane Sy.
Je ne suis pas le seul. De plus en plus de Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur, demandent aujourd'hui un processus de dialogue national. Il faut prendre le temps de le faire. Si on ne prend pas le temps de le faire, ça va nous rattraper. Et je crois que c'est ça, pour moi, la réorganisation du territoire doit être inclue dans ce débat.
Les travaux se poursuivent dans plusieurs capitales régionales, sauf dans la région de Gao, où les groupes armés de la plateforme et la société civile ont empêché la tenue effective de ces concertations régionales. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h05, temps universel, dans votre émission À votre avis. Beaucoup de villes africaines ont un problème d'accès en eau et en électricité et les populations payent souvent très cher pour ces services essentiels alors que leur approvisionnement est aléatoire dans bien des cas. Pourtant, la Banque mondiale a conclu que l'accès à une électricité bon marché à des millions d'habitants en Afrique subsaharienne est bien à la portée des gouvernements africains. Trouvez-vous le prix de l'eau et de l'électricité trop cher par rapport aux services? Quelles solutions proposez-vous? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Au Niger. Niger, cela fait 500 jours aujourd'hui que 39 personnes, des jeunes filles en majorité, ont été enlevées à Ngalewa, dans la région de Difa, au sud-est du pays, par des éléments de la secte Boko Haram. 500 jours sans nouvelles, mais surtout sans un réel élan de mobilisation des autorités pour les retrouver et les ramener. Un collectif d'activistes a tenu à interpeller les autorités sur cette situation. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous en dit plus.
500 jours, comme les anglophones le disent, it's enough.
De ces 39 personnes, 35 avaient moins de 20 ans au jour de leur enlèvement le 2 juillet 2017. Plus d'une année après, très peu de nouvelles d'elles, peu de réactions également des autorités. Une attitude que dénonce Kaka Touda, membre du collectif d'activistes Je suis Ngalewa.
500 jours d'angoisse, 500 jours d'attente, 500 jours sans en tout cas retour de ces victimes, parce que les parents de ces victimes attendent que leur famille puisse regagner. Donc c'est vraiment une façon pour nous de nous indigner par rapport au silence du gouvernement et de rappeler au gouvernement qu'il est de sa responsabilité de prendre des dispositions utiles. C'est vrai, c'est une région où il y a l'insécurité, mais l'insécurité ne peut pas aussi faire en sorte qu'on puisse se taire. Même aujourd'hui, les personnes ont été enlevées. Ces gens, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas autre chose que de vouloir négocier avec eux. Et ils ont montré à travers des signes, en libérant une personne, ils ont montré que leur objectif, c'est de vouloir négocier. Mais on s'étonne que le gouvernement actuel refuse de négocier. Alors même qu'on sait que ce gouvernement a par le passé pu à négocier quand il s'agit des Européens qui ont été enlevés. Donc pourquoi sur ces 39 femmes et enfants, c'est le silence complet, c'est vraiment étonnant.
Il y a quelques mois déjà, les parents de ces personnes enlevées s'indignaient eux aussi du silence du gouvernement sur la situation de leur enfant.
Il est légitime de nous demander pourquoi l'enlèvement des 39 personnes passe sous silence alors qu'une chèvre volée est activement reçue. Colère et indignation sont les sentiments qui nous animent devant le faible niveau d'engagement des autorités en vue de leur libération. Mis à part la timide tentative de poursuite observée dans la nuit, juste après les événements, la participation à l'enterrement des victimes et un communiqué laconique du gouvernement relatif aux événements, aucune action notaire n'a été posée par nos autorités. Cela constitue une grande déception pour les parents.
Le soir du 2 juillet 2017, des éléments de la secte Boko Haram ont fait une incursion dans le village de Ngalewa et sont repartis avec 40 personnes après en avoir tué 9 autres. Le président Issoufou a indiqué avoir ordonné depuis aux forces de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour les ramener. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Direction à présent Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à la rencontre d'une femme qui exerce un métier dominé par des hommes. Massata Cissé, encore appelée Mama Africa, est conductrice de véhicules poids lourds depuis près de 30 ans. Allons à sa découverte et c'est avec notre correspondant Lamine Traoré.
Massata Cissé, dite Mama Africa, est à l'origine de ces ronronnements de ce véhicule poids lourd. À 57 ans, Massata a déjà transporté plusieurs centaines de tonnes de marchandises dans presque tous les pays de la sous-région.
J'ai hérité ça de mon papa parce que mon papa était chauffeur et j'ai aimé ce travail-là. Je conduis depuis 28 ans. Je ne suis pas la seule, il y a une à Lomé, mais pour le moment, elle ne conduit plus. Sinon, en Afrique de l'Ouest, je suis seule.
Employée dans une cimenterie à Ouagadougou, elle est la seule femme sur près de 600 conducteurs qu'emploie la société. Albert Ima, le directeur de l'entreprise, est satisfait.
Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas une activité vraiment très facile. Il faut parcourir de longues distances, mais avec son courage, son abnégation, il se trouve vraiment que nous avons un écho vraiment plus regardant chez elle. Parce qu'une femme qui se démarque à son âge peut parcourir de longues distances avec des hommes tout autour, pour nous, ça ne peut être que louable pour l'image vraiment de la femme. C'est une grande combattante. Le camion, c'est comme si c'était vraiment pour son métier à elle. C'est sa vocation.
Mama Africa impressionne plus d'un. Oumar Koulibaly est chauffeur dans la même société. Il refuse de dire que Massata Cissé est une simple collègue.
Si on dit collègue, c'est trop dit. C'est ma patronne. C'est elle qui m'a appris à conduire. Je la connais depuis dans les années 90. C'est une femme formidable. C'est une femme exemplaire. Dans toute l'Afrique de l'Ouest ici, je n'ai pas vu une femme qui conduit un gros camion avec des tas de tonnages, c'est pas elle.
La conductrice est sans complexe. Elle a un conseil à donner aux autres femmes. Mais la presque sexagénaire, au soir de sa retraite, a des projets.
Toute femme n'a pas à avoir le courage pour apprendre quelque chose. Le travail, c'est le courage. Ce que j'ai demandé aux autorités, bon, je ne suis pas un mendiant, mais je demande une aide. Si on peut m'aider à avoir un camion, et puis si je peux vraiment avoir une aide, avoir une association, former les femmes. Et avec l'âge-là, si j'arrive à avoir une aide et former les femmes, ça sera bien pour moi.
Massata Sissé apparaît aujourd'hui comme l'incarnation de l'émancipation de la femme. Avec elle, il n'y a pas de métier réservé aux hommes et d'autres pour les femmes. Il faut simplement faire face aux vicissitudes de la vie pour s'en sortir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Tunisie, descendants d'esclaves et personnes de couleur sont encore victimes de discrimination malgré l'adoption récente d'une loi pénalisant le racisme dans le pays. Ils espèrent réclamer justice en s'appuyant sur ce texte adopté le 9 octobre 2018. Des précisions avec Irénée Hermanombo.
Nadia Borji vit constamment dans la psychose. Non seulement elle essuie au quotidien les affres de la discrimination, mais elle a aussi peur d'être inhumée dans un cimetière situé à Sidriane, le cimetière dit des esclaves.
Cette situation existe depuis longtemps et nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et des hommes libres sont séparées et bien différenciées.
Tout comme Nadia, les Tunisiens noirs, majoritairement descendants d'esclaves, constituent une minorité à peine visible dans ce pays d'Afrique du Nord. Beaucoup d'entre eux rêvent encore d'égalité après l'adoption d'une loi le mois dernier criminalisant toutes les formes de discrimination ou de racisme. C'est le cas de Mohamed, un habitant de Gosba, dans le sud-est de la Tunisie.
Les gens diront qu'il n'y a pas de discrimination, mais elle existe. Ils diront qu'il n'y a pas de différence entre noir et blanc, mais dans la réalité, c'est le contraire. Dans la réalité, ils vous méprisent. Ici, les mentalités sont dépassées.
En Tunisie, les personnes de couleur vivent la pire discrimination du 21e siècle. Leur seul recours du moment, la loi adoptée le 9 octobre dernier, pénalisant le racisme. Saadia Mosba est présidente d'une association de défense des minorités en Tunisie.
Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto ou de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice.
Ces militants pour la défense des minorités, les Noirs notamment, se félicitent d'une avancée législative historique sur la pénalisation de la discrimination. Ils appellent cependant à un travail sur ce qu'ils qualifient d'inconscient esclavagiste du pays.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sim Sloumani, à la console Thomas Blandet, à la présentation Ekiabadou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente suite de programmes en notre compagnie.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les